Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous sommes dans l'émission Sanctuaire et Communauté. Pour cette émission, vous allez retrouver Bruno qui va recevoir aujourd'hui sœur Justine Compaoré et Gino Testa aussi pour ce temps qui va nous faire découvrir les sœurs apôtres du Sacré-Cœur.
Et oui, chers auditrices et auditeurs, nous partons aujourd'hui en Italie. Nous partons à Rome pour rencontrer donc sœur Justine et sœur Hortense, qui est aussi la responsable de la congrégation des sœurs apôtres du Sacré-Cœur. Et j'ai le plaisir d'avoir en face de moi en plateau, alors en plateau c'est un terme technique, en studio à Paris, Gino Testa, qui nos auditrices et nos auditeurs connaissent bien, concernant le Padre Pio. Voilà. Sœur Justine, bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, monsieur Bruno. Je réponds au nom de sœur Justine Compaoré. Je suis une sœur apôtre du Sacré-Cœur. Je suis à Rome.
Voilà. Merci, merci de nous accueillir. Et donc, on est très heureux que vous nous parliez de votre vocation pour nos auditrices et nos auditeurs. Quelle est votre vocation pour devenir religieuse ?
D'accord, merci bien. Et je me suis sentie appelée quand j'étais petite. C'était lors d'une retraite charismatique à laquelle a pris part ma mère. Et ce jour, je l'ai accompagnée. Et j'ai vu deux sœurs qui animaient la prière, une qui chantait et l'autre qui lisait. Mais ce qui m'a attirée est la belle voix de celle qui chantait. Et j'ai chuchoté à l'oreille de ma mère en disant, « Je veux devenir comme la sœur qui chante. » Et ma mère m'a répondu, « On en parlera dehors. » Alors, une fois à la maison, je le lui ai rappelé. C'est là qu'elle m'a dit, « Pour devenir une sœur, tu dois d'abord étudier. » Mais tu n'as pas l'âge d'aller à l'école. Je devrais alors attendre. Mais cette attente fut longue parce que je devrais me détacher de ma famille pour aller vivre avec une autre famille. Un catéchiste qui avait besoin d'un enfant pour donner un coup de main à sa femme. Pendant que j'étais là-bas, les années sont passées. Mon désir de me faire religieuse était tombé dans l'oubli. Et un jour, un dimanche à l'église, ce même catéchiste a dirigé la prière dominicale dont l'évangile du jour a réveillé en moi le désir qui dormait. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. C'était l'évangile de ce jour. S'appuyant sur ce passage, il a montré les types de vocations. Il a cité les catéchistes, les religieux, religieuses, les prêtres. Et j'ai été touchée. Je suis restée seule toute la journée à méditer sur ce passage et à penser. Mais j'avais devant moi tant d'obstacles. Je ne suis pas allée à l'école. En plus, je suis loin de mes géniteurs. Comment cette vocation peut-elle être possible? C'est la question que je me suis posée. Et toute la nuit, je n'ai pas dormi. Et très tôt le matin, je m'en vais réveiller la femme et je lui ai expliqué mon désir de retourner chez mes parents. Elle me dit d'aller dormir et me promet d'en parler le matin. Le jour venu, elle me demande pour savoir clairement si ce que je lui ai dit est quelque chose de réel. Et je lui ai répondu, ce n'était pas un rêve, c'est la vérité. Je veux retourner chez mes géniteurs. Elle le dit à son mari, lui aussi étonné, m'appelle pour vérifier. Et je lui ai donné la même réponse. Alors, son mari a pris les démarches nécessaires et m'a accompagnée à la maison. Arrivée chez mes géniteurs, j'ai demandé à mes géniteurs de m'envoyer à l'école. Et ils me font savoir que ce n'est plus possible parce que j'ai dépassé l'âge d'aller à l'école. Mes larmes les ont convaincus que la demande était sérieuse. C'est là que mon père a fait des démarches nécessaires et puis m'a accompagné chez le directeur. Celui-ci m'a accepté dans sa classe au cours préparatoire deuxième année. L'année suivante, je me suis inscrite dans le groupe vocationnel. Je suivais ce groupe, participant aux activités et aux rencontres. Mais contrairement à mes camarades du groupe, je ne m'étais pas choisi une congrégation jusqu'à la classe de troisième. Année du collège, la classe de troisième. C'est l'année où j'ai connu les sœurs apôtres du Sacré-Cœur. Une de leurs était venue chez les sœurs des pauvres de Bergame qui sont sur notre paroisse pour un stage en milieu rural. Un dimanche, ses consœurs sont venues lui rendre visite. C'était un jour de rencontre du groupe vocationnel et le comité de vocation les a invités à prendre part à notre rencontre pour présenter leur congrégation. Et quand la sœur a pris la parole, elle a dit, « Nous sommes les sœurs apôtres du Sacré-Cœur. » J'ai dit à moi, « Voilà ma congrégation. » Le Sacré-Cœur m'a séduite et je me suis laissée séduire. Tout de suite après la rencontre, j'ai dit à l'aumônier du groupe de compléter dans le registre le nom de ma congrégation. C'est en 2013 que j'ai commencé la formation avec l'expérience d'une année au prépostulat et puis le prépostulat une année et le noviciat deux ans, à la fin duquel j'ai émis les vœux temporaires en 2017. Voilà en grosso modo la petite histoire de ma vocation.
Et maintenant que vous nous parlez en tant que membre de la congrégation, pouvez-vous nous présenter votre communauté ?
Ok. Notre communauté, nous sommes les sœurs apôtres du Sacré-Cœur. Je précise bien le nom parce que il y a d'autres communautés qui portent à peu près ce nom, mais autour du Sacré-Cœur, il y a une petite parole qui fait la différence. Il y a les filles du Sacré-Cœur, les servantes du Sacré-Cœur, les sœurs apôtres du Sacré-Cœur de Jésus, mais nous sommes les sœurs apôtres du Sacré-Cœur. C'est le même cœur. Notre communauté est née le 21 avril 1936 à Volturara Apula, dans la province de Foggia, en Italie, de Mère Maria Gargani, sous le guide de Padre Pio. Alors, hier, c'était notre 88e anniversaire. C'est un institut du droit pontifical. Nous sommes en Italie et en Afrique.
Vous allez pouvoir nous parler de choses, de vos activités, et après, ce qui est très important pour nous, de faire connaissance avec votre fondatrice, Maria Gargani.
Nos activités, et les activités que nous menons sont variées, et nous sommes engagés dans l'éducation des enfants dans nos écoles. En Italie comme en Afrique, nous avons des écoles où nous essayons de transmettre les valeurs morales et chrétiennes à travers l'enseignement. Nous sommes dans le domaine de la santé, dans lequel nos cœurs essaient de rencontrer et de servir Jésus souffrant dans nos frères et sœurs souffrants, et de soigner et de suivre les enfants malnutris. Nous sommes dans les œuvres sociales. Nous avons un centre ménager où nous formons les femmes et les jeunes filles au métier de couture, de la fabrication du savon et d'autres petites activités pour les aider à s'auto-prendre en charge et à s'intégrer dans la vie sociale pour pouvoir vivre dignement leur vie. Nous faisons l'apostolat, nous accompagnons les mouvements dans les paroisses, nous faisons la catéchèse et les activités de la sacristie. Voilà en grosso modo les activités que nous menons.
Et maintenant, nous parler donc de notre fondatrice, Maria Gargani.
Alors, la fondatrice, Mère Maria Gargani, est né le 23 décembre 1892 à Mora de Sanctis, dans la province de Avellino. Elle est d'une famille chrétienne catholique. Elle fut la dernière de 8 enfants. Elle a reçu comme ses aînés l'éducation selon la foi catholique de la part de ses géniteurs. Elle, son adhésion à cette foi fut rapide, effective et admirable. Elle a aimé Jésus dès sa tendre enfance et son désir était de s'unir à lui. Elle le rencontrait dans la prière devant le tabernacle ou devant la croix. Et dans Le Soleil à la minuit, l'auteur Stefano Campanella raconte que à 5 ans, Maria savait se retirer pour prier et un jour sa mère l'a surprise en genoux sur un bois rugueux en train de prier. Elle lui demande, ma fille, il n'y a pas un autre endroit pour prier? Elle répond à sa mère en disant, papa a dit de prier en silence. Et quand sa mère a vu que les genoux très fragiles de sa fille, de la fille sont blessés, elle n'a pas pu retenir ses larmes. Et l'auteur raconte également qu'à 8 ans, l'enfant a fait sa première communion à l'insu de ses parents. Eux qui jugeaient que leur fille n'a pas reçu une formation adéquate pour recevoir ce sacrement. Mais le cœur de l'enfant, au contraire, était prêt à recevoir Jésus. Alors, quand l'occasion s'est présentée, elle n'a pas hésité. Elle fut également une fille très laborieuse à l'école et à la maison et dans sa vie apostolique. Elle fut une institutrice et a commencé son métier d'enseignement très jeune à San Marco la Catola. Elle fut membre et ministre du tiers ordre franciscain. Mais l'interrogation qu'elle se faisait était celle de savoir la volonté de Dieu sur elle. Cette interrogation incessante a trouvé réponse grâce à l'accompagnement de Padre Pio. Voilà ce que je peux dire sur elle.
Alors, concernant Padre Pio, on a la grande chance, chers auditrices et auditeurs, d'avoir, il est en face de moi en studio, aujourd'hui, Gino Testa, et un des spécialistes en France, je dis ça très humblement, parce que je le pense, du Padre Pio, c'est lui. Alors, je vais poser une question à Gino. Que représente Maria Gargani pour vous?
Oui, bonjour. Maria Gargani est une fille spirituelle de Padre Pio, et je dirais même, sans hésiter, une éminente fille spirituelle de Padre Pio. Au début, Maria Gargani était guidée par les deux directeurs spirituels de Padre Pio, Padre Benedetto et Padre Agostino, qui très vite lui conseillent de rentrer dans la vie religieuse, un dans l'ordre de Sainte Brigitte et l'autre dans un ordre qui s'appelait, je crois, les Servantes du Sacré-Cœur. Sans se mettre d'accord, mais Maria Gargani est obéissante et est prête à faire la volonté de Dieu. Et à un moment donné, les deux directeurs de Padre Pio confient la direction de Maria Gargani à Padre Pio. Et dans la première lettre que Padre Pio écrit à Maria Gargani, il lui dit « Le Seigneur m'a montré ton âme avant encore que tu m'écrives ». Donc il y a des liens très forts entre Padre Pio et Maria Gargani. Ce sont deux âmes privilégiées. Padre Pio la rassure. Il lui dit des paroles comme « Le Seigneur t'aime, il te veut tout à lui ». Et elle ne sait pas trop dans quel ordre rentrer. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive. C'est qu'à un moment donné, les deux directeurs de Maria Gargani se mettent d'accord sur un ordre. On va voir Padre Pio. Elle va voir Padre Pio, qui juste là était resté un petit peu en retrait, qui lui dit non. Et c'est surprenant qu'un prêtre dise à une jeune fille qui veut rentrer dans les ordres de ne pas rentrer dans les ordres. Et Padre Pio fait cette remarque : nous ôtons du monde le peu de lumière qu'il y a et ensuite nous lamentons que les âmes ne vont pas à Dieu. Je trouve surprenant qu'un prêtre dissuade une fille qui veut être religieuse. Quelques années passent et Maria Gargani, avec une amie, avec quelques filles autour d'elle, commence à faire de l'enseignement. Elle va en parler à Padre Pio et là, Padre Pio exulte, lui dit « Voilà, finalement, c'est ici que nous devions arriver. Celle-ci est la volonté de Dieu. Va voir ton évêque. Quelle joie, quelle joie !» Voilà, je trouve très beau cet épisode. Donc, Maria Gargani était déclarée servante de Dieu, vénérable et béatifiée. Et c'est la première fille spirituelle de Padre Pio à avoir été béatifiée.
Mais merci Gino. Alors, ma sœur, après avoir entendu ces belles paroles de Gino sur du Padre Pio et Maria Gargani, quels sont les projets futurs de votre communauté ?
Alors, les projets futurs de notre communauté.
Oui. Je sais pas, dans l'année qui vient, il y a peut-être des célébrations, il y a peut-être des anniversaires encore que vous allez fêter. Non, mais voilà, c'était une question.
Les projets futurs, c'est d'aller partout dans le monde entier.
Voilà, ben c'est un bon projet,
là,
ça.
Là où manque le prêtre, voilà. C'était le désir de la bienheureuse Maria Gargani de répandre l'amour du cœur du Christ et partout dans le monde entier. Et si Dieu le veut, pourquoi pas en France? Nous avons mis en place aussi des projets de sensibilisation pour lutter contre la désertification et le réchauffement climatique en Afrique en réponse à l'encyclique du pape François Laudato Si. Et nous pouvons voir nos sœurs sur Facebook qui présentent ces activités. Et l'adresse Facebook est Beata Maria Suore Apostole del Sacro Cuore tire Beata Maria Gargani. Sœur apôtre du Sacré Cœur, Beata Maria Gargani.
Voilà. Alors, si nos auditeurs auditrices viennent en Italie à Rome, est-ce qu'on peut venir vous rencontrer? Comment ça se passe?
Oui. Il suffit de prendre contact avec nos sœurs qui sont en Italie. Elles donneront un rendez-vous et l'adresse pour... S'ils veulent venir en communauté à Rome ici, nous sommes sur la Via Nomentana, Monte Maloya. Monte Maloya 20, numéro 20. Mais nous avons l'adresse aussi de la secrétariat et canonisation @saskmg.it. Voilà. Ils peuvent nous contacter sur cette adresse aussi.
D'accord. Alors, avant de poursuivre cette émission, je vais demander à Gino de compléter un petit peu par rapport au Padre Pio, s'il a d'autres souvenirs ou d'autres informations à nous donner par rapport à la relation entre Padre Pio et Maria Gargani.
Oui, alors moi j'ai rencontré cette congrégation de Maria Gargani au travers de Stefano Campanella, dont Sœur Justine a parlé tout à l'heure, qui est le directeur de Tele Padre Pio et qui est vraiment le grand, grand spécialiste de Padre Pio. Hein. Et donc, on peut le dire, c'est la première fille spirituelle de Padre Pio à avoir béatifié, ce qui n'est pas rien. Il y a beaucoup de fils et filles spirituelles de Padre Pio qui sont vénérables ou servants de Dieu. Je pense au vénérable Giacomo Galfione, qui était tombé malade, paralysé, qui est venu demander une grâce à Padre Pio. Il n'a pas eu une guérison, mais il a eu une grâce spirituelle. Il a monté un ordre sur l'apostolat de la souffrance. Je pense à Euphemia Giannini, très proche de Maria Gargani, et puis d'autres. Hein. Et Dans les lettres de Padre Pio à Maria Gargani, il y en a une que je trouve très intéressante, et je crois que c'est à Maria Gargani qu'il parle de ça. Il parle de l'alcyon. L'alcyon, c'est un oiseau qui vit dans les mers, alors mythologique ou de fable, et qui ressemble un peu à la mouette. Et il se fait un nid qui est dans la mer. Donc ce nid, étant dans la mer, il est protégé des prédateurs terrestres. Et même quand il y a la tempête, eh bien le nid monte et descend au gré des vagues. Mais l'ouverture est en haut. Donc l'alcyon avec son nid est accroché à la terre en toute sérénité, mais toujours la tête ouverte vers le ciel et vers Dieu, donc.
D'accord, ben merci pour ce beau témoignage, ce beau partage. Alors, je vous propose, ma sœur, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter concernant vos engagements et votre communauté, que nous terminions cette émission par une prière.
Avant de passer à la prière, je voudrais informer que l'œuvre dont j'ai parlé durant mon intervention est disponible. Le intitulé « Le soleil à la minuit » de Stefano Campanella est disponible. Et qui veut connaître mieux Maria Gargani peut contacter les sœurs directement en Italie.
D'accord.
Voilà.
Oui, Gino, il y a Gino qui voulait compléter par rapport à ce que vous venez de dire. Je vous interromps 30 secondes, ma sœur, et je donne la parole à Gino et je vous redonne la parole juste après. Oui, Gino.
Oui, je l'ai lu, donc, ce livre de Stefano Campanella. Là, donc, je le conseille vivement. Hein, c'est aux éditions San Paolo. C'est traduit ou écrit en français. C'est très intéressant. Voilà ce que je voulais rajouter.
Merci, Gino. Oui, ma sœur.
Alors,
vous voulez rajouter quelque chose peut-être pour derrière?
Oui, c'était pour dire que ajouter l'adresse de notre site web.
Absolument.
www.saskmg.it, l'adresse du site web.
Merci.
Merci.
Donc maintenant, je vous propose de terminer cette émission par une prière de votre choix.
Alors, je vais prendre la prière pour la canonisation de la bienheureuse Mère Maria Gargani.
Bien sûr, on vous écoute.
D'accord. Cœur sacré de Jésus, par ton amour infini, tu as conduit et soutenu la bienheureuse Mère Maria Gargani, qui s'est offerte à toi comme victime pour le bien de tous ses frères. Pour toi, elle a consumé toute sa vie, se faisant apôtre parmi les derniers et les plus petits, pour qu'advienne ton règne de sainteté. Elle a conduit vers toi tant de frères et de sœurs pour qu'ils t'aiment et te servent. Cœur de Jésus, exauce ma prière. Donne-moi de la voir inscrite par l'Église dans la gloire des saints, proposée comme modèle et exemple de charité. Par son intercession, accorde-moi la grâce que je te demande humblement et avec confiance. Amen.
Amen. Chères auditrices et auditeurs de Radio Maria France, il me reste à remercier Sœur Justine qui est en ligne de Rome, Mère Hortense qui est sa supérieure et Gino Testa qui est en face de moi pour leur participation à cette très belle émission. Bonne journée à tous.
Merci, je vous remercie. Au nom de la supérieure générale Mère Hortensia Meuro et de toutes les sœurs apôtres du Sacré-Cœur, pour cette opportunité que vous nous avez offerte de nous faire entendre par nos auditeurs. Merci bien et merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis en ce moment.
Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Sanctuaire et Communauté et grâce à Sœur Justine, vous avez découvert les Sœurs Apôtres du Sacré-Cœur. Merci à Gino Testa pour son intervention et à Bruno pour cette émission. N'hésitez pas à réécouter cette émission en podcast sur le www.radiomaria.fr.